Et voilà, on va parler des sorties. Laurent, on va commencer par ce assez remarquable film qui s'appelle Retour à Reims, fragment de Jean-Gabriel Perriot, à travers le texte de Didier Ribon et lu par Adèle Haenel. Ce film raconte en archive une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des 50, des années 50 à aujourd'hui. C'est comme une contre-histoire du 20e siècle.
Oui, alors il faut dire quand même que Perriot se distingue quand même du livre de Didier Ribon, ce qui est explicité par le titre Retour à Reims, entre parenthèses, fragment.
Ouais, c'est sur la condition ouvrière et sur la femme.
Oui, voilà, ouais. Mais c'est normal, c'est-à-dire qu'il prend le récit est toujours à la première personne, mais il est dit par Adèle Haenel, ouais. Alors que le livre est écrit par un homme, Didier Ribon, donc là, il y a une distance qui se crée, et il y a une distance qui se crée par rapport au parcours très intime, de Héribon dans le livre, et là le propos est beaucoup plus ample, c'est clairement une sorte d'histoire personnelle, mais à la fois collective de la gauche française et de son naufrage depuis 1981 avec la montée progressive du Front National, plus du Rassemblement National, pardon, avec une utilisation très intelligente des archives télé et cinématographiques, c'est-à-dire à la fois de la fiction et du documentaire, qui à chaque fois renvoie effectivement à un discours politique extrêmement construit, et qui va plus loin d'ailleurs que le livre là aussi des Ribon, mais juste en termes de calendrier, c'est-à-dire que le film parle par exemple des Gilets jaunes, ce que ne pouvait pas faire évidemment le livre des Ribon. Donc c'est un documentaire très très intéressant, à la fois sur tout le discours qu'il porte, mais aussi sur la façon très particulière de traiter les archives et de les remettre en quelque sorte en perspective.
Avec des archives incroyables, oui. Moi j'ai le souvenir de cet ouvrier à la chaîne qui dit je fais plus l'amour à ma femme, je veux pas faire un cinquième enfant. Ils ont trouver des archives absolument incroyables.
Oui, il y a un énorme travail.
Ouais. Encore de Cédric Clapiche, Élise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors, sa vie va être bouleversée. Elle va apprendre à se réparer entre Paris et la Bretagne. Un film sur la danse sans la sempiternelle rivalité féroce entre danseuses ou sans le prof dictateur, mais plutôt la danse comme outil de renaissance après le tutu, la danse comme un plaisir, celui de se dépasser. Alors oui, Clapiche s'engouffre dans les registres de bons sentiments, le feel good movie et son cortège de gentils anges gardiens, des personnages secondaires. Certes, les questionnements sont attendus et même les résolutions parfois convenues, mais reste cette joie, Laurent, de filmer la renaissance grâce à cet outil maître dans ce film. Elle s'appelle Marion Barbeau, c'est une vraie danseuse et ça devient une vraie actrice.
Dans ses étoiles, oui, Marion, ouais. Barbeau, ça c'est extraordinaire. Il y a quand même deux films en un. Alors on peut choisir peut-être entre les deux films, on peut aussi aimer les deux films, mais on peut, comme je le fais moi, un peu choisir, c'est-à-dire ne pas être très très attiré par la première fiction qui est une sorte d'auberge espagnole dans une résidence d'artiste tenue par Muriel Robin, qui doit beaucoup, comme elle Claudie, qu'elle doit beaucoup à Madame Jouve dans La Femme d'à côté. Et puis il y a d'autres personnages comme Denis Podalydès, encore une semaine avec
qui
deux films
papa.
De Denis Podalydès.
Moi j'aime beaucoup, il a beaucoup aimé.
Très bien, mais enfin bon. Et il y a à côté, en même temps, parallèlement, vous le disiez, un documentaire extraordinaire sur la danse classique et sur la danse contemporaine, puisque le personnage passe du classique au contemporain. C'est quand même un film de fiction qui commence par une sorte d'un quart d'heure de ballet filmé, la Bayadère, donc ça c'est formidable. Il y a des très très belles séquences aussi du ballet moderne d'un artiste israélien.
Ouais.
Donc vraiment, si on aime la danse, il faut de toute façon aller voir le film de Clapiche, parce que c'est formidable. On se dit, moi j'aurais aimé voir 1h30, 2h de danse filmée par Clapiche. Ça m'aurait autant comblé que cette fiction qui ne m'intéresse guère, à vrai dire.
Ce chorégraphe s'appelle Ofech Schechter.
Oui,
le grand mouvement de Kiro Russo. Elder arrive à pied à La Paz, la capitale bolivienne, après 7 jours de marche pour protester avec ses amis mineurs contre leur renvoi. C'est un mélange de cinéma, vérité et de mystique, ce film. C'est envoûtant et c'est très singulier.
Oui, alors c'est un film bolivien. C'est pas tous les jours fête. C'est pas tous les jours qu'on voit des films boliviens sur les écrans français. On ne peut que s'en réjouir.
Il y a qu'en France qu'on voit des films.
Oui, exactement. Il y a qu'en France. Je pense que franchement, bon, dans les autres pays, on voit essentiellement des films américains.
Oui.
Bon, bref, parenthèse fermée. Fragment, comme dirait Perriot. C'est le grand mouvement dont il est question. C'est celui évidemment de la circulation des personnes et des biens dont le film parle, et avec un traitement cinématographique très 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 intéressant, parce que il emploie notamment ce cinéaste Russo le zoom. C'est pas pareil qu'un travelling, un zoom, hein. Un zoom ça va beaucoup plus loin, ça va beaucoup plus vite, et par exemple il entre dans la bouche d'un personnage et on se retrouve progressivement dans ce personnage, il traverse ce personnage avec son zoom. Donc il y a vraiment en matière de cinématographie des choses tout à fait intéressantes. On filme le dehors, on filme filme le dedans, on filme le dehors, et on passe du réel à l'imagination.
Dedans.
C'est oui, exactement. On a ce concept-là. Au bout du compte, on a ce concept-là. Et c'est vraiment un poème. C'est un poème cinématographique. Il faut accepter de lâcher la prise de Descartes. Et si on entre dedans, on peut être très très heureux.
Au Japon, le prince n'épouse pas Cendrillon, mais plutôt, sans amour et pour les conventions, une fille de sa caste. Anako, c'est une héritière, et c'est le thème de ce film Aristocrate de Yukiko Sode, c'est une femme. Quant à Cendrillon, la petite provinciale, modeste, ancienne hôtesse de bar, eh bien, elle restera la maîtresse de ce bel héritier jusqu'au jour où la femme, Anako, découvre son existence, décide de la rencontrer, et sous son influence, va se révéler à une forme d'émancipation. Le vrai sujet est ici, dommage qu'ils mettent tant de temps à se déployer dans ce film qui pose un regard pourtant lucide sur ces rapports de classe hyper codifiés, et c'est vrai, assez peu traité dans le cinéma japonais, Laurent.
Oui, en même temps, la forme est tellement convenue, tellement convenable, tellement appliquée par rapport justement...
Lente.
Oui, très lente, par rapport au film japonais qu'on aime. Par ailleurs, il y a le troisième héros du film, ou la troisième héroïne, je ne sais pas, c'est la ville de Tokyo. Donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement un geste cinématographique qui est très, très beau, parce que cette ville à la fois ouverte et fermée est assez impressionnante.
Vedette de Claudine Borry et Patrice Chanière. Vedette, c'est une vache.
Oui.
Une reine. Elle a même été la reine des alpages, mais elle a vieilli. Et pour lui éviter l'humiliation d'être détrônée par de jeunes rivales, ses propriétaires la confient pour un été aux deux réalisateurs voisins. Le film raconte cette expérience, celle de découvrir, entre autres, que chaque vache est unique.
Mais oui, non, c'est formidable. Franchement, c'est très agréable à voir, parce que c'est très intelligent. C'est-à-dire, c'est pas juste la rencontre improbable entre une vache qui s'appelle Vedette et qui est une reine, parce qu'elle a réussi à supplanter toutes ses petites copines dans l'alpage, et la rencontre improbable, donc avec ces deux cinéastes, en général très portés sur le social, sur le politique, etc. Et là, la confrontation, la rencontre entre ce couple et puis cette vache de compétition, le tout sur fond de Jean-Christophe Bailly, d'Elisabeth de Fontenay, de Lévinas, parce que évidemment on cite des textes sur le rapport entre l'homme et l'animal. C'est franchement à la fois très drôle, parce qu'il y a des rangs, voilà, c'est improbable, c'est très drôle, et c'est très très passionnant sur le discours que ça véhicule.
Moi, je voudrais reparler d'un film, je sais qu'on ne fait pas ça souvent, mais que j'adore, qui est L'ombre d'un mensonge de Bouly Lanners.
Ah oui, je l'ai vu.
C'est magnifique.
J'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Beaucoup aimé.
Et c'est drôle. Tous les gens qui vont voir le film adorent le film. Il y a un taux de satisfaction fou. C'est poétique.
Ouais. C'est très romantique.
Ouais.
C'est Bouly Lanners, c'est magnifique. Et cette actrice,
ouais,
merveilleuse.
Ouais.
Michel Ferlet.
Oui, c'est ça.
Qui jouait dans Game of Thrones,
ouais,
qui est démente.
Ouais.
Et puis ces romans, ça m'a fait penser un peu, ça m'a évoqué des films de David Lynch,
exactement,
comme La fille de Ryan.
Exactement.
Et moi j'adore ça. C'est super.
Il y a
un petit mot sur une ressortie.
Oui,
le Grand Silence de Sergio Corbucci, 1968. Ça sent son 1968. Trintignant Kinski. C'est un des rares westerns hivernal. Hivernal.
Ça
vient d'en
aller voir
peu dans l'histoire.
Ouais.
Et ben c'en est un. Voilà.
Musique et cinéma à Marseille.
Oui, nous irons à Marseille du 4 au 9 avril prochain pour un festival uniquement consacré, et c'est très très bien comme ça, à la musique et au cinéma, avec notamment des ciné-concerts, dont un de Raphaël Imbert, une rencontre entre Éric Neveu et Emmanuel Berco, la présence de Tony Gatliff aussi, une grosse compétition de court et de long. Bref, la musique sera à l'honneur à Marseille, la musique au cinéma, sur grand écran.
On a deux cadeaux.
Mais
et
oui.
Tiens, on va écouter la réalisatrice du premier cadeau.
C'était un rôle très agréable à jouer. J'ai beaucoup joué des victimes, des filles qui tombent, qui se prennent des coups, et j'ai adoré jouer une battante qu'elle est. Elle a de la chance, elle est battante, c'est pas du tout, on a pu penser qu'elle était manipulée, pas du tout, elle est totalement, je veux dire, nous quand on est petit et qu'on s'inscrit pour être délégué de classe, on nous dit qu'il faut pas voter pour nous. Alors elle, à 12 ans, elle dit « je veux être une star internationale » et elle le devient. Et elle a beaucoup d'ambition, elle-même aussi.
Et ce film, Laurent, c'est ?
Eh bien, c'est Aline, évidemment. Et on offre le Blu-ray chez Gaumont à Florence Loiret-Caille de ce film sur une chanteuse. Voilà,
merci.
Voilà, qu'on connaît un petit peu.
Ce sont deux films qui ont été sacrés au César, d'ailleurs.
Exactement.
Et le deuxième.
Et le deuxième, toujours chez Gaumont, Blu-ray. Vous disiez que le film dans lequel vous êtes, Léa Boucard, pourrait s'appeler Illusion perdue. Eh bien, le voilà.
Ah,
bref, voilà, celui
je l'ai
de
vu
Xavier
au cinéma
Jalili.
Et je l'ai beaucoup aimé.
Et ben voilà,
et ben je vais le revoir en Blu-ray.
Ouais. Le Blu-ray chez Gaumont, tous les deux. Voilà, merci.